Salut Daniel et toute l'équipe, c'est René de Montpellier. Chapeau bas devant cette ouvrière qui a osé crier sa colère face à tous les responsables, petits et grands, de ce système qui méprise la valeur travail au profit des intérêts financiers. Au revoir.
Extraordinaire, hein. J'ai trouvé les filles vraiment bien, on peut les féliciter. On sent que la classe ouvrière n'est pas toute imbécile quand même, elle commence à se révolter un peu, c'est très bien. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelques réflexions d'actionnaires qu'on peut comprendre aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont désabusés, et les petits actionnaires, ils pensent qu'en mettant un peu d'argent de côté, ils sont quand même plusieurs millions comme ça, il faut pas croire. Les plus pauvres, ils se font avoir encore mieux que les gros, et les gros, ils se font jamais avoir. Enfin, je remercie très bien, c'est un très bon reportage, et puis bravo pour les filles, hein, je les embrasse toutes, bien que moi je suis retraité, je suis ancien délégué CGT de l'université, c'est pas le même boulot, et je suis sur la Côte d'Azur, ben je plains tous ces pauvres gens qui ont vraiment, j'espère, une bonne lutte pour tous, et puis qu'ils ne se découragent pas, ils sont en pleine forme. Bravo encore.
Bonjour, j'ai écouté votre émission dans ma voiture, j'avoue que ça a réussi à me faire tirer des larmes des yeux. J'avais l'impression d'être face à un film et pas du tout à la réalité. Pourtant, la réalité, c'est celle-ci. J'ai des enfants, j'ai très peur. Vraiment, je crois qu'après avoir écouté ça, deux solutions sont venues à mon esprit. Ou je pars dans la montagne avec les chèvres et des moutons. Ou alors, je décide d'avoir un bras armé et de me dire que c'est impossible de supporter ça. C'était vraiment une honte, un manque de respect. Et c'était très, très violent. Mais merci à vous de l'avoir passé. Au revoir.
Oui, bonjour, émission de là-bas, si j'y suis. Je suis scandalisée par ce que je viens d'entendre à l'émission de Daniel Mermet tout à l'heure. Vraiment, ces femmes me donnent mal au cœur. J'ai trouvé leur courage sublime et l'attitude de ces beaux messieurs, belles dames, plus préoccupées de leur mini bouteille de mouette et de l'assaut du buffet après l'Assemblée Générale de LVMH, plus préoccupées par ces petits détails croustillants que par l'avenir de ces 150 femmes. Et j'ai bien peur que cela ne s'arrange pas dans les années à venir. Voilà, je suis scandalisée et en même temps très très émue. Et je leur souhaite beaucoup de courage. Je vous remercie. Au revoir.
Oui, salut Daniel. Voilà, je te téléphone au sujet de ton émission d'hier que je trouvais formidable. Alors tout d'abord, j'aimerais saluer cette femme du Nord pour son courage et sa détermination. En même temps, les réactions des actionnaires sont ambiguës et pas forcément mauvaises. Je pense à cet actionnaire ancien de l'extrême gauche qui a raison. Si depuis 40 ans, les ouvriers, les employés, les salariés ne se prostituaient pas de peur de perdre leur emploi et donc de se retrouver au chômage, on n'en serait pas là. Si les gens étaient plus politisés, plus syndiqués, on aurait sûrement moins de patrons arrogants comme Bernard Arnault. Si les actionnaires sont égoïstes, les ouvriers aussi le sont. Et je sais de quoi je parle. Il ne faut pas croire que dans les entreprises, les ateliers, tout le monde est solidaire et se donne la main. Ce n'est pas vrai. Quand certains postes sont supprimés et que certains ouvriers sont virés, il est rare que leurs collègues fassent grève. De la même manière, quand les employés d'une usine font grève, il est rare que ceux d'à côté soient solidaires de leurs camarades. Bref, comment se fait-il aussi que tant d'ouvriers aient voté Nicolas Sarkozy, quoi? Et malheureusement, je pense qu'ils vont voter aussi massivement pour les députés de droite. Alors, on se demande dans quel monde on vit. Allez, salut Daniel et bon courage. Et merci encore pour tes émissions formidables.
Bonjour à tous les AMG. Je viens d'écouter en différé le dernier volet des émissions sur LVMH. Et je tiens vraiment à vous féliciter pour cette formidable leçon de journalisme. J'en profite aussi pour vous signaler que l'industrie du luxe n'est pas la seule où au nom de l'actionnaire roi, on prive les citoyens d'une partie de plus en plus importante du fruit de leur labeur. En effet, je suis collaborateur, c'est comme ça qu'il faut dire maintenant, du groupe Gaz de France. Cette entreprise a réalisé en 2006 des bénéfices records, comme ses homologues du CAC 40, et a décidé, on ne sait pas comment, d'augmenter, tenez-vous bien, de 62% les dividendes par action. Vous avez bien entendu, plus 62%, soit un total reversé aux actionnaires de plus de 220 millions d'euros. Or, cette somme représente à elle seule 3 fois le budget de la recherche de Gaz de France. C'est-à-dire que même en maintenant une croissance des dividendes de 30% au lieu des 62%, ce qui est déjà plus que n'a fait LVMH en 2006, il aurait encore été possible avec le reste d'augmenter de 60% l'effort de recherche afin de rendre cette énergie encore plus sûre, encore moins chère, et moins polluante pour le bien de tous. Au lieu de cela, et à l'heure où le réchauffement climatique menace notre biotope et où nos politiques nous disent qu'ils vont accroître notre pouvoir d'achat, des choix à court terme sont réalisés à notre insu et dans tous les domaines, au seul bénéfice immédiat d'une minorité de possédants.
Oui, bonjour Daniel, moi je m'appelle Jean-Paul, je suis de la Bretagne, j'ai une petite entreprise de 20 personnes. Je suis sur la route et j'écoutais l'Assemblée Générale avec les manifestants de LVMH. Je comprends les deux, pour moi les deux ont raison. D'un côté les patrons ont raison parce qu'ils défendent l'intérêt de l'entreprise, ce que je vis tous les jours. Et je comprends aussi les ouvriers de cette usine qui demain peuvent se retrouver sans travail. Mais il ne faut pas oublier que dans les ouvriers, il y a ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup de social de fait et que ceux qui ne travaillent pas et qui profitent du système social font surtout beaucoup plus de mal que les patrons aux salariés qui travaillent. Ce que je veux dire par là, c'est que on a augmenté les charges. Tout coûte beaucoup plus cher, on a des prix de revient, on est plus compétitif. Moi-même, j'exporte à l'étranger et on a beaucoup de mal à exporter de par nos prix de revient et nos charges. Et tout ça est dû au social, toujours plus de social, toujours plus de gens assistés depuis plusieurs années. Et cela crée un différentiel entre les productions faites au niveau de la France, si on veut, et les productions faites à l'étranger. Moi-même, exportateur, je n'ai pas voté à l'ouverture de l'Europe. Donc, je pense que les ouvriers devraient plus s'en prendre aux gens assistés de la société qui profitent du système. Le problème est là. Au revoir, Daniel. Mais j'ai écouté avec attention cette manifestation et j'étais assez touché par... Voilà, bonsoir.
Même Jean-Paul, le patron d'une petite entreprise de 20 salariés, a été assez touché par le reportage d'hier de François Ruffin et Pascal Pascariello au sujet de ces ouvrières du textile. La confection d'une petite entreprise de Poix du Nord, dans le Nord, au CCE, qui, n'arrivant pas à se faire entendre, eh bien, sont venus à l'assemblée des actionnaires de LVMH à Paris, au Carrousel du Louvre, et ont réussi à rentrer dans cette assemblée. Comment? Eh bien, en achetant une action. Il suffit d'acheter une action et vous pouvez assister à l'assemblée des actionnaires, ce qu'a fait l'une des femmes de cette entreprise de confection pour essayer de se faire entendre. Vous l'avez entendu, en tout cas, et vous entendez aujourd'hui les réactions des auditeurs de la base, si j'y suis. Tous disent la même chose. C'est unanimement ému, révolté, passionné par ce reportage et très admiratif devant, évidemment, le courage et la détermination de ces 147 ouvrières qui ont toutes les chances ou les malchances du monde de perdre leur boulot d'ici la fin de l'année. On a compris le message de Jean-Paul, le petit patron qui nous dit que, ben voilà, camarades ouvriers, la cible, ce contre quoi vous devez lutter, c'est les autres ouvriers, c'est les assistés. Bien évidemment, ne vous trompez pas d'ennemis, c'est pas les patrons, ils font ce qu'ils peuvent, les patrons ils sont gentils, les patrons ils ont des soucis, les patrons ils ont trop de charges, les patrons c'est bien connu. Non, votre adversaire, votre ennemi, c'est l'ouvrier qui triche, c'est l'assisté, c'est le feignant, la grosse feignasse molasse qui est dans un coin et qui ne fait rien et qui profite du système. Savoir si ça va marcher, on le verra dans les prochains reportages, peut-être de la base IGSPI, qui ne manqueront pas de se faire écho de ce conseil. On va retrouver encore aujourd'hui les ouvrières de ECCE. Ben après la séance, la chaude séance d'hier, que pense-t-elle, que pensait-elle après ça? Et puis, on a vu dans les messages laissés dans la boîte vocale de la boîte IGSPI qu'en fait, Bernard Arnault, vous le connaissez mal, vous confondez Pinault, Arnault, vous savez pas non plus, et Jean-Paul a raison, les soucis que peut avoir un patron, fut-il l'homme le plus riche de France. Et comment est-il arrivé là? Ça peut vous intéresser. Beaucoup d'entre nous souhaitent, rêvent de s'enrichir, eh bien, on va vous donner des conseils, on va vous faire mieux connaître cet important personnage, et aussi peut-être que ça vous donnera des idées pour vous enrichir et sortir de cette pauvreté dans laquelle vous stagnez bêtement finalement. Vous allez voir d'ici à 16h. Encore d'autres messages auparavant, parmi ceux que vous avez laissés, nombreux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basilique, au 01 56 40 37 37.
C'est Claire et Marie, donc nous sommes de fidèles auditrices de Là-bas si j'y suis. Et là, ça fait 2 jours qu'on a les poils qui se hérissent sur les bras. Et on se dit, franchement Daniel, il faut absolument, en entendant ces femmes qui vont revendiquer comme ça la manière dont on s'occupe d'elles, dont on les traite, absolument mobiliser tes auditeurs pour que la prochaine fois, si tu as besoin de porte-voix et de porte-drapeau, eh bien, qu'on puisse être là pour aider toutes ces personnes qui ont beaucoup, beaucoup de courage. Voilà, ben, on vous embrasse. À bientôt, Daniel!
Très, très beau reportage, là, de Pascal Pascariello et François Ruffin, qui a donné lieu aux émissions d'hier et d'aujourd'hui. Très, très beau reportage, mais, et très belle émission. Mais je l'ai pas vécu du tout comme voilà, comme un bon gag, un bon coup qu'on a réussi à pénétrer le milieu des actionnaires et puis à faire intervenir une voix intempestive au milieu de leur réunion. Je l'ai très mal vécu, ce reportage. Très mal. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça extraordinairement violent. Parce que en l'écoutant, je mesurais l'ampleur de la tâche. En entendant tout ce qui est implicite dans ce reportage. Je veux dire, toutes les idées reçues et largement acceptées par au moins 53 des Français, je crois beaucoup plus, sur la richesse, le luxe, les distinctions dans la société, qui finissent par rendre naturel dans l'esprit des gens les discriminations ordinaires. On ne mélange pas les pauvres avec les riches. C'est normal qu'il y ait des gens distingués, entre guillemets. C'est-à-dire que l'on distingue et qui soient distingués par les autres. Et qui bénéficient de privilèges comme de bâtir leur fortune sur l'exploitation sans vergogne des gens ordinaires. Et en plus de l'éventuelle révolte desquels ils sont protégés par tout un service d'ordre social qui, dans un régime soi-disant démocratique, continue d'aménager des espaces privatifs. Et je trouvais ce reportage très très violent parce que c'est en l'entendant que j'ai compris comment cet ordre permet le passage quasiment en douceur de l'entreprise privée, de la plage privée, du club privé, au ministère, aux fonctions de l'État même, de l'État qui est censé représenter la totalité des citoyens et dont les grands corps deviennent l'apanage, l'espace réservé des possédants, des dirigeants. C'est d'une violence vraiment insoutenable et d'autant plus insoutenable quand on pense que tous les efforts des intellectuels, des luttes sociales depuis, je sais pas, disons 2 siècles pour faire bouger ces stéréotypes de la soumission à un ordre établi en faveur des puissants, tous ces efforts sont battus en brèche depuis 20 ans. Alors entendre l'autre bouffon, je veux dire Arnaud, porte-parole de cette triste clique qui a réussi, je parle de la clique, qui a réussi à installer au pouvoir toutes ces canailles qui sont à leur botte et dont le nouveau président de la République est l'effigie la plus représentative, la plus zélée et la plus répulsive pour tous ceux qui ont lutté par divers moyens pour tenter de modifier cet ordre social inique, l'entendre comme il le fait dans les propos rapportés dans l'émission, l'entendre dire que c'est lui et sa clique qui sont victimes de l'idéologie socialo-marxiste, c'est intolérable. C'est intolérable et c'est violent. Voilà. C'est une violence, mais que pour ma part, j'ai trouvé insoutenable. Mais félicitations à Pascal et François.
même si vous utilisez une dialectique adaptée à votre fonction de syndicaliste.
Mais vous mettez dehors 147.
Des réactions nombreuses, je vous l'ai dit, à l'émission d'hier, au reportage d'hier. Au passage, tout à fait autre chose, on a parlé de l'affaire du Venezuela. Le président du Venezuela a fait fermer une chaîne de télévision, vous êtes au courant de ça, et on a évoqué. Alors, il y a une réponse de Noam Chomsky, on a envoyé un message à Chomsky pour savoir ce qu'il en pensait, et vous pouvez avoir la réponse de Noam Chomsky sur le site là-bas.org, là-bas.org, et vous avez également à la page du Monde Diplomatique sur le net un papier de Bernard Cassen qui vous éclaire. Ainsi vous avez deux éclairages sur là-bas.org et Bernard Cassen s'exprime donc sur le site du Monde Diplomatique. Je referme cette parenthèse, nous revenons à notre reportage du jour, donc avec les ouvrières de ECCE, et puis bien sûr notre héros à tous, notre héros national, Bernard Arnault. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse-Vision.
Bonjour Marilène de Loire-Atlantique, pour Daniel et sa super équipe, intelligent et grinçant, dérangeant, mais plein d'enseignements, futile parfois, mais aussi drôle et coquin, pour varier notre triste quotidien. J'ai pourtant le cœur à droite, mais ma France, je la veux libre et heureuse. Tous les après-midi, je vous écoute avec bonheur. Continuez tant que vous le pourrez. Merci à vous.
Eh bien, moi, je suis sidérée. Bonjour, je suis Michel de Lorient, je suis native du Pas-de-Calais. Je viens d'entendre toutes ces femmes lors de l'Assemblée générale des actionnaires. Et j'ai entendu un des actionnaires interviewé, je suis sidérée. Je ne pensais pas qu'on puisse avoir de tels propos envers des gens qui travaillent. Sarkozy dit qu'il faut mettre le travail à l'honneur. Voilà des femmes qui mettent leur travail à l'honneur et qui se font insulter par un actionnaire, entre autres, qui est franchement, excusez-moi d'expression, mais dégueulasse. Et moi, je serai un homme, je serai en face d'un mec comme ça, je leur envoie une malheur en pleine poire. Ce n'est pas possible qu'en France, maintenant, on eut de telles pensées pour des gens qui n'ont jamais rien gagné de leur vie, mais qui en ont fait gagner des mille et des cents à des salopards qui ne veulent même pas baisser leurs dividendes pour laisser vivre des gens. C'est la vie des gens qui est en jeu. Et on ne veut même plus laisser des gens vivre. Mais c'est horrible. J'ai honte d'être française. J'ai honte. Au revoir.
Bonjour, je viens d'écouter cette émission avec Marie-Hélène Bourlard. Vraiment, quelle charmante jeune dame. Si vraiment toutes les personnes avaient autant d'humanité qu'elle, le monde serait beaucoup plus beau. Vraiment, je tiens vraiment à la féliciter. Vraiment, j'aimerais bien la connaître. Elle est extraordinaire. Bravo, Marie-Hélène. Bravo, bravo. Merci. Au revoir.
C'est Jean-Daniel, j'ai 25 ans, je suis luthier dans le Nord. Je connais un village qui était renommé pour son industrie textile. Les anciens en parlent avec fierté et racontent comment ces usines rythmaient leur vie. Toutes ont été fermées sauf une. Enfant, je voyais passer devant chez moi les ouvrières fatiguées par le travail minutieux et le bruit des machines. J'ai grandi et le nombre d'ouvrières qui passent devant la maison a diminué. Aujourd'hui, l'usine va fermer et les gens se disent... C'est comme ça, c'est triste, mais on n'y peut rien. Dans le coin, on en a vu tellement fermer des usines, c'est devenu une habitude, une fatalité. Ce village, c'est Poix du Nord. L'usine ECCE y est implantée en son centre. Merci à ces ouvrières pour leur courage et la bouffée d'espoir qu'elles nous offrent. Je voudrais dire à l'un des actionnaires, au cynisme insultant, que le costume qu'il porte a été fabriqué par ses petites mains et que s'il connaissait véritablement la valeur du travail, il s'étoufferait dedans. Enfin, une petite info, une soirée de soutien est organisée le 22 juin à Poix du Nord. Venez nombreux. Salut.
Quand on dit c'est Victor Hugo qui disait ça, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Bah oui, c'est d'actualité aujourd'hui.
Jamais. C'est la première fois de ma vie professionnelle que je vois un journaliste qui entre en AG sans son matériel, de manière anonyme, gueule en plein AG avec les délégués syndicaux et qui derrière est avec un agrin en dehors et fait une interview. Bah attendez, vous pouvez pas dire que c'est normal. J'ai jamais vu ça. vous savez parfaitement, si vous êtes honnête, que vous avez un comportement militant.
Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous remercie pour cette réaction, en tout cas.
Ah, ok, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça me révolte. Saloperie, je te foutrais tous en prison, moi. Parfaitement, pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français.
LVMH, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je cherche à joindre Bernard.
Bernard Arnault, nous voilà.
Monsieur Arnault.
On en a chié en parlant poliment pour faire ces vestes-là. Et la veste et le pantalon... Ça me fait même... On ne gagne même pas ça.
Qu'est-ce que vous êtes venus foutre sur terre, nom de Dieu ? Vous n'avez pas envie d'exister ? Hein ?
N'oubliez pas que maintenant, je suis actionnaire.
C'est moi. Salaud de pauvre.
C'est Daniel Mermet, c'est la Bassi, j'y suis, François Ruffin, Pascal Pascariello, l'Assemblée des actionnaires.
Flight number two, arriving from...
dialectique adaptée à votre fonction de syndicaliste.
Mais vous mettez dehors 147 salariés.
Et que si nous avions annulé le contrat, il n'y aurait pas eu de problème, on n'en aurait pas parlé.
Vous continuez à délocaliser dans les pays de l'Est. Il y a les 147 salariés, je voudrais que vous les voyiez et que vous osez les voir là dehors en face et leur dire je ne veux plus travailler avec vous.
Vous inquiétez là pour le cours de votre action avec ce qui s'est passé ce matin ?
Absolument pas.
Donc mieux si on délocalise, on sait que les bénéfices augmentent, c'est ça aussi ?
Oui.
147 mères de famille ont leur famille brisée, plus d'emplois, plus de revenus.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez,
c'est
monsieur ?
C'est un bon produit, le champagne.
Attendez, mais pourquoi on ne peut pas demander qu'une diminution des dividendes pour régler ce problème-là ?
Oui, à une diminution des dividendes !
Mais pourquoi on ne ferait pas une proposition ? Mais attendez, mais on peut faire une proposition, vous répondez, puis c'est bon, on s'en va.
Mais ne la bousculez pas, vous, hein ?
Personne ne la bouscule.
Les filles, on va sortir un petit peu au magasin Kenzo, parce que ça nous fera du bien à tous, hein ?
Là, le cortège de la CGT passe dans la galerie marchande du carrousel lourd. Alors, c'est les magasins de luxe qui appartiennent d'ailleurs pour partie à LVMH. Il y a Swatch, il y a Sephora. À terre, il y a des étiquettes Kenzo qui sont jetées. Eden Park, donc les marques fabriquées à l'OCCE. C'est deux mondes qui se croisent, là, avec d'un côté les gens qui viennent acheter les produits de luxe et de l'autre les ouvrières de l'OCCE.
Chômage, que c'est pas beau, quand de tristes personnages se partagent le fromage. Oh, ah, que c'est pas beau, mettre les gens au chômage, ah, que c'est pas beau, mettre les gens au chômage, ah, que c'est pas beau.
Et là, vous avez tout compris. Vous avez tout compris si vous avez suivi les émissions. Et même si vous arrivez, ces ouvrières de l'entreprise ECCE de Poix du Nord, près de Maubeuge, risquent d'ici à la fin de cette année de se retrouver sur le carreau. Elle travaille dans cette entreprise qui est un sous-traitant de LVMH. LVMH est le donneur d'ordre. Aussi, la direction d'LVMH dit, c'est pas notre affaire, c'est, nous ne sommes que donneurs d'ordre. C'est une combine qu'on connaît et qui est devenue mondiale, bien évidemment. Et ces ouvrières, en tout cas, pour ce qui les concerne, se retournent contre LVMH. Elles sont venues à cette assemblée des actionnaires. Elles ont réussi à participer à cette assemblée ayant acheté une action, ce que vous pouvez faire, hein, il suffit d'acheter. Si vous voulez participer à ces assemblées d'actionnaires, il vous suffit d'acheter une action de n'importe quelle entreprise et vous participez, vous posez des questions et on doit vous répondre. Faites-le, ça peut être intéressant, instructif et même, pourquoi pas, assez amusant. Amusant si on veut. Violent, nous a dit Claude, un auditeur. En tous les cas, voilà, ça s'est passé ainsi. Des promesses ont été faites, de tables rondes, de se revoir. On ferait remonter la demande, remonter vers où, vers on ne sait quel sommet. Mais on va en savoir plus peut-être sur ce sommet, puisque vous êtes intrigué, fasciné par la première fortune de France. Comment pourrait-il en être autrement ? Et on a pensé que c'était bien de vous donner quelques éclaircissements avec nos professeurs
notre spécialiste en la matière. Voilà, c'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, l'Assemblée des actionnaires.
Là, le cortège déambule le long de la rue de Rivoli. C'est pas une des plus moches de la nuit que la rue de Paris, je crois.
Ah, c'est joli, c'est vrai. Ah, c'est... Et puis, il fait une belle journée, en plus.
Marie-Hélène, comment ça s'est passé pendant l'Assemblée ?
Le 440 est très indifférent aux petites mains de CCE. Ça, je m'y attendais. Ça me blesse même pas. Au contraire, on est digne de dire ce qu'on pense devant ce monsieur à qui ne daigne même pas venir s'expliquer.
5 minutes avant qu'on rentre dans la salle, vous me disiez oui, j'ai un peu le trac quand même.
J'avais les boules. Mais après, quand je les entendais parler, je me suis décontractée parce que je vais dire mais qu'est-ce que c'est que ces guignols qui parlent ? Pour moi, c'était vraiment des guignols et ils me parlaient de rentabilité, pognon, c'est écœurant. Les ouvriers, on nous traite souvent de racailles. C'est eux la racaille en premier. Et je le dis fortement.
Mais on aurait dû acheter plusieurs actions.
Ouais.
Ça coûte beaucoup d'argent.
100 euros, ouais.
Je maintenant t'as de l'argent.
Mais non, je vais le revendre.
Mais nous, on garde pour toi, tu as raison, Marie-Hélène.
Ça, je le garde, c'est mon carton d'Assemblée Générale. Regardez, LVMH, Assemblée Générale, le 10 mai. Le conseil d'administration de LVMH aura le plaisir de vous offrir un produit du groupe à l'issue de l'Assemblée. Mais je ne l'ai pas eu.
Vous n'avez pas eu le champagne ?
Non. Ben non, ils nous ont virés.
Le CAC 40 est très indifférent aux petites mains de CCE, dit Marie-Hélène Bourlard. Mais on sent bien à travers tout ça qu'il y a une certaine incompréhension. Hein. C'est des mondes quand même assez différents. Alors, on vous a fait connaître Marie-Hélène Bourlard, les ouvrières. Est-ce qu'on a été assez précis ? On se demande, on est très très soucieux que vous soyez bien informés. Est-ce qu'on vous a bien fait connaître Bernard Arnault, le patron de LVMH ? Insuffisamment, selon nous, et selon les messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse-Île. Aussi, nous allons nous tourner vers Michel Villette, et qui est professeur, et qui est l'auteur, avec Catherine Villermaux, d'un ouvrage intitulé « Portrait de l'homme d'affaires en prédateur ». Et parmi ces hommes d'affaires, il s'est penché sur le cas de Bernard Arnault. Alors, il va pouvoir nous éclairer, nous enseigner et surtout enseigner nos amis, les petites mains venues de Poix-du-Nord et qui manifestent dans Paris.
Est-ce que vous voudriez qu'il y ait un prof là parmi nous ? Est-ce que vous voudriez qu'il vous explique comment Bernard Arnault a fait fortune ?
Oui, ça m'intéresserait.
Mais on va aller le retrouver. Monsieur Villette est enseignant. Et par ailleurs, on va continuer à avancer. Il est par ailleurs l'auteur d'un livre qui s'appelle « Portrait de l'homme d'affaires en prédateur ». Et dans ce livre, il dresse la biographie de Bernard Arnault.
Ah ben c'est le septième homme le plus riche du monde maintenant, vous le savez ?
Oui, ça je le sais.
Vous devriez bien devenir la septième femme la plus riche du monde.
Ah oui.
Vous pensez qu'il était riche dès le départ ?
Moi je pense pas. Non ?
Ben c'est une grande famille bourgeoise du Nord.
Près de chez vous, en plus.
Oui, près de chez vous. Son père avait une usine de construction métallique qui employait 1000 salariés et qui a été vendue 40 millions de francs quand Bernard Arnault avait 25 ans. Ça a été son héritage, si vous voulez.
Ah ouais, d'accord.
Donc, et puis, il habitait dans un des quartiers les plus huppés de Lille, à côté des grandes familles. Simplement, il est passé d'une fortune, disons, régionale à une fortune mondiale. Donc voilà, c'est ça le bon qu'il a fait. Mais au départ, c'est un bourgeois. Hein. Et même dans son style de vie, c'est un bourgeois. Il jouait du piano, il jouait du piano comme un virtuose, il était fort en maths, et puis il a fait l'école polytechnique. Enfin, bon, quand on est bourgeois, on est programmé pour ça, en quelque sorte.
Oui,
il a été programmé par sa grand-mère pour reprendre, en quelque sorte, les bijoux de famille et en faire, et devenir un excellent dans son genre. Et en 81, les bourgeois ont eu très peur parce qu'ils croyaient que c'était un gouvernement socialo-communiste, que ça allait être comme les soviets. En fait, ça a été un gouvernement bien gentil, mais ils ont eu peur, disons. Alors Bernard Arnault fait partie de ces jeunes bourgeois talentueux qui, voyant les socialo-communistes arriver en France, ont décidé de partir à l'étranger. Et il est parti s'installer à New York. Il a rencontré des copains à New York. Et c'est ces copains qui vont lui permettre de faire le grand coup de sa vie. Et le grand coup de sa vie extraordinaire, c'est de reprendre le textile du sac.
Attendez, là on est passé devant toute une série de vitrines du luxe. Et là on est où ?
Kenzo. Ben, c'est ce qu'on fabrique, les costumes Kenzo.
Donc là on est devant la vitrine. Oui. Derrière il y a les clientes, le service d'ordre qui est un peu inquiet.
Là c'est les magasins Kenzo où toutes les petites mains que vous voyez là ont fabriqué la plupart des costumes. Et aujourd'hui, on veut les mettre au chômage.
Et là, ils veulent pas ouvrir la porte ?
Non, ils veulent pas. C'est les petites marques de CCE qui ont fabriqué les costumes. Kenzo, travaillez. Kenzo, fabrication française. Kenzo, fabrication française.
Et on passe le tract sous la porte, donc qu'elle reste fermée.
Voilà. Venez lire la lettre.
À la vendeuse qui vient lire les tracts, la vendeuse de Kenzo.
C'est quand même pas normal, ils ont peur de nous, qu'est-ce qu'on va leur faire ? Rien du tout. On est là pour sauver notre emploi, ils nous gardent comme des pestiférés. Ils veulent même pas d'explication vu qu'ils n'ont qu'à ramasser le tract et le lire. On va pas les taper, hein. Vous voyez un costume comme ça ? Ben, ça coûte 1000 euros. Alors que nous, on gagne 1000 euros sur un mois.
Ouais,
quand même. Ah, Lulu.
Ouais, ça c'est vrai.
Ça c'est du gancé, ce que vous voyez tout autour noir, c'est du gancé. Ça on les fabrique.
Une veste beige avec un contour noir.
Ouais. On en a chié en parlant poliment pour faire ces vestes-là. Et la veste et le pantalon, ça ne fait même, on ne gagne même pas ça. En un mois. Il y en a pour 1360 chez Kenzo. Veste et pantalon, on gagne 1100 euros à peine par mois. Et rien que la partie du col de la veste, il y a 8 morceaux. La petite partie arrière. On en bave pour les faire. Ils sont payés à combien ? 1000 euros. Et nous, 1360 et bien plus. C'est un mois de salaire.
Ah ouais. On attendra les soldes. Hein. On va attendre les soldes.
Moi, je dis qu'ici, ils mettent des vignettes. Ils ne mettent pas Made in France à l'extérieur là-bas, en Roumanie. Mais arrivé en France, on met Made in France. Le vêtement, il est bâti et enfin, il est construit là-bas. Arrivé en France, on met Made in France. Et ben voilà. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui notre travail.
On y va les filles.
Ouais, bah, les bus,
On y va. On va au bus, hein.
Ah bon, d'accord.
Bon, François, je te dis au revoir.
Ça va, à bientôt. Bonne journée, vous êtes content.
Ouais, ça a été super. Au revoir. À bientôt.
À bientôt.
Nous, il faut rentrer dans le Nord, il n'y a pas de souci.
Voilà, on va peut-être les retrouver encore une fois, nos amis, quand même, avant la fin de cette émission. Et alors, on est dans le quartier de la Samaritaine, là, au centre de Paris, vous voyez, hein, le Pont-Neuf, la Seine et ces magasins célébrissimes qui, aujourd'hui, vous le savez bien, sont fermés, ont été rachetés par LVMH et ce quartier vivant... bruyant, populaire, et eh ben devient un quartier un peu fantomatique, balade.
Donc là on fait tout un pâté de maisons et partout c'est marqué la Samaritaine avec des grilles fermées, oui, tout autour.
Exactement. Bah, ça fait depuis le 15 juin 2005.
Alors, là, on est en plein cœur de Paris et pourtant, c'est vraiment tout un quartier qui est complètement...
endormi.
Plus qu'endormi, il est carrément mort là avec des grillages en fer partout, des grilles de fer qui sont tombées partout. Quoi. Donc on aurait une opération ville morte, vous savez. Là, il n'y a presque pas de bruit.
Non, l'activité, il est mort maintenant. Avant, il y avait une espèce de... Enfin, on entendait un espèce de bourdonnement permanent. Mais là, quand on est dans le magasin, par exemple, c'est vide, quoi. On entend le vide et c'est pas génial. Voilà.
vous connaissiez déjà la Saint-Maurétaine auparavant ou...
Oui, j'y allais quand j'étais petit, parce qu'on avait, quand on était à Fouane, même encore à Palaiseau, on avait un poulailler et tout ça, et on achetait des poussins là-haut, on achetait la pâtée pour les poules et tout ça aussi, pour les poussins, au magasin 3, où il y avait toute l'animalerie.
Donc là, vous montrez...
C'était dans les étages, ouais. Et on allait un peu aussi à la belle jardinière qui est maintenant Louis Vuitton, où il y avait des marionnettes, je ne me rappelle plus à quel étage, il y avait même des petites marionnettes.
Et pourquoi vous achetiez les poussins alors ?
Bah, c'est parce qu'on élevait des poules à l'époque. On avait un jardin qui était vers la Bièvre, à Fresnes, c'était vers la Bièvre. Chaque personne avait des lots et jardinait pour avoir des légumes, parce que la vie était quand même assez difficile à l'époque. Hein.
Pourquoi plutôt que de continuer à faire employer à Saint-Maritaine, vous n'êtes pas lancé dans le business des poules en batterie, vous aviez en poule?
Non, le jardin n'était pas assez grand, et puis en zone urbaine, c'était pas évident, parce qu'une fois, on n'a eu que des coques.
C'est-à-dire?
Mon père, il a mal choisi, il a trouvé que des coques. Et on avait une ribambelle de coques, et il y avait la voisine qui était juste à côté, parce que bon, c'est pas des, en banlieue, c'est pas des terrains qui étaient immenses. Quand il y avait une ribambelle de coques qui chantait le matin, la voisine, chaque fois, elle nous en rachetait un pour plus les entendre.
Fondaient bien les coques?
Ah, bah non, ils fondent pas les coques, les pauvres. Il n'y a que les poules qui fondent.
Donc là, c'était une vraie erreur industrielle.
Ouais, oui, c'est une erreur, oui. Mais bon, c'était, ça nous donnait un petit coup, quelques sous en plus à l'époque. Comme...
Quand Bernard Arnault, le roi du luxe, est arrivé, ça a changé?
Ah, ça a changé énormément. Tout ce qui était bricolage et tout ça, ça a été supprimé en moins de deux.
Là, il y a eu une transformation quand même assez radicale du quartier, parce qu'auparavant, vous dites, on venait acheter des poules, de la pâtée pour les poules, il y avait des marionnettes, donc c'était populaire, quoi.
C'était populaire, ouais, parce qu'il y avait juste à côté toutes les halles, où il y avait énormément de monde qui venait, même des poules, des poussins, il y avait tout, on trouvait tout, en fait, vraiment tout, du meuble... de la literie, au moins, il y avait tout, de la verrerie, vaisselle, tout le monde pouvait acheter, tout le monde pouvait trouver son compte.
Maintenant, c'est devenu un quartier de luxe, où il n'y a plus que des parfumeries. Il y a Kenzo en face de nous.
Voilà. Tout ce qui est bazar et tout ça, on n'en veut plus, c'est plus notre quartier, c'est notre cible de vente, comme ils disent dans les trucs commerciaux. Bon, on le supprime.
C'est quoi la cible de vente, alors?
La cible de vente, c'était la mode, tout ce qui était mode. Et tout ce qui était luxe, mode et tout ça, haut de gamme. Et pour trouver une clientèle nouvelle, une clientèle qui est à pouvoir d'achat plus haut que la moyenne.
Voilà, c'est le haut de gamme, c'est plus haut que la moyenne. Mais qui a décidé, hein? Qui a décidé qu'on allait finir avec le bazar, avec les poules et les et toute cette vie dans ce quartier? Eh bien, c'est le roi du luxe. Et oui. C'est Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, la 7e fortune du monde. Aussi est-il important de revenir avec notre professeur Michel Villette, pour comprendre comment on est-il arrivé là. C'est quand même une des plus grandes puissances françaises. Et quand je dis puissance, je dis pas seulement une puissance économique, c'est une puissance politique, puisque c'est quelqu'un qui peut décider de la vie d'un quartier, au centre même de Paris. Il n'y a pas plus central que ça, le Pont Neuf, l'île de la Cité, enfin voilà. Eh bien, c'est ce monsieur qui a décidé, d'où l'intérêt quand même de savoir comment on est-il arrivé là. On retrouve Michel Villette.
C'est pour manger ?
Pour manger, oui.
Ah, avec plaisir.
On vient de s'installer au bistrot L'Auxerrois, juste à côté de la Samaritaine. On est en compagnie de Michel Villette, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le portrait de l'homme d'affaires en prédateur ». Donc, est-ce que ça vous intéresserait qu'on nous explique comment devenir la première fortune de France ? Ça vous intéresse ?
Ben oui, parce que surtout qu'on va toucher des indemnités de licenciement, ça va nous permettre d'étudier pour investir.
Quelle est la première grande étape qui va transformer Bernard Arnault en une grande fortune ?
Ce qui est décisif, c'est la reprise du groupe Boussac.
Alors, combien on demande pour ce groupe Boussac ?
400 millions de francs. Il faut 400 millions de francs pour racheter le groupe Boussac. Et à l'époque, Bernard Arnault dispose d'environ 90 millions de francs. Notre ami Bernard Arnault a déjà obtenu le soutien de la banque Lazare. Donc il a le soutien des puissants banquiers. Alors, face à ça, comment vont réagir les pouvoirs publics? Puisqu'on est maintenant avec Mitterrand au pouvoir.
Parce qu'il y a beaucoup d'autres prétendants.
Il y a Maurice Biedermann qui veut reprendre. qui est un vrai professionnel du textile, alors que Arnaud, il n'y connaît rien au fond. Hein. Alors, Biedermann semble soutenu par Jacques Attali et Robert Mitterrand, le frère de François Mitterrand. Et en face, apparemment, Edith Cresson, ministre de l'Industrie, et Hélène Ploix, conseillère de Laurent Fabius, suivent les recommandations d'Antoine Bernheim de la Banque Lazare, qui soutient Bernard Arnault. Donc en fait, la Banque Lazare joue un rôle tout à fait essentiel dans l'histoire de Bernard Arnault. Au fond, Bernard Arnault a été une sorte, au début, en tous les cas, une sorte d'homme de paille. Ou...
Donc finalement, il a fallu de l'entre-gens pour qu'il ait le soutien des pouvoirs publics.
Et le soutien des banquiers, d'un banquier éminent. À l'époque, la Banque Lazare, c'est vraiment la banque d'affaires par excellence.
Hein, et le soutien d'un banquier.
Avec un investissement personnel de 40 millions de francs, il a pris le contrôle d'une entreprise qui vaudra 8 milliards en bourse 3 ans plus tard et qui fait de lui instantanément un des hommes les plus riches de France. L'affaire est jouée là.
Donc avec 40 millions, il arrive à obtenir une entreprise qui vaut 8 milliards de francs.
Oui, voilà, en se présentant comme l'homme providentiel qui peut sauver la situation. C'est de la magie, mais dans les affaires, il y a beaucoup de magie comme ça.
Hein ? Moi, j'appelle plutôt ça de la magouille, mais bon, chacun ses termes.
Alors, on est en 84 et... Bernard Arnault s'engage sur un plan de maintien des emplois industriels qui va être vite oublié et en contrepartie il obtient des pouvoirs publics 380 millions d'abandons de créances et 560 millions d'aides publiques nouvelles qui s'ajoutent aux 900 millions déjà engagés par les pouvoirs publics avant la reprise pour soutenir le groupe Boussac.
Donc là il reçoit au total 1,8 milliard de francs pour maintenir l'emploi.
Et Bernard Arnault arrive, promet d'être un sauveur. Hein, c'est le sauveur, donc on lui donne tout l'argent pour essayer de sauver la situation qui est effectivement très mauvaise dans le groupe Boussac. Alors maintenant, l'étape suivante de notre stratégie, ça va être de se débarrasser des usines et des salariés.
Oui, c'est ce que j'allais dire, maintenant c'est le tour des salariés.
Alors dès 85, deux petites usines sont revendues, une à Beauvais et une à Saint-Quentin. Et c'est très intéressant de voir à qui ces usines vont être revendues. L'acheteur de ces usines, de ces premières usines et puis des suivantes, est une société créée de toutes pièces pour la circonstance qui va s'appeler l'Internationale Cotonnière.
Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils trouvent des intermédiaires.
Ils trouvent des intermédiaires qui sont intéressés, évidemment, mais qui eux aussi vont faire une petite fortune à l'occasion.
Et quasiment, ils leur donnent les usines juste pour s'en débarrasser voilà, et que ce soit eux qui se chargent du sale boulot.
Ils les soutiennent et puis ensuite, ben voilà... Hein. Cette société, l'Internationale Cotonnière, apparemment se tient pas très bien, c'est-à-dire très vite elle ne paye pas ses cotisations à l'URSSAF. Il y a un rapport de la brigade financière. Ses dirigeants procèdent à des détournements de fonds vers la Suisse. Ben oui, ils savent que les ateliers vont être fermés très vite. Donc il faut qu'ils essayent de ramasser un peu d'argent avant que ce soit trop tard. En novembre 85, un juge délivre des mandats d'amener à l'encontre de Gilbert Benatar et Alexandre Saban et qui sont écroués, ils vont carrément en prison. Hein. Et les 1500 salariés des différentes sociétés issues du groupe Boussac qui ont été repris par cet employeur-là se retrouvent sans employeur. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de responsable. Et notre ami Bernard Arnault, qui a fait les choses dans les règles, en respectant à la lettre les textes de loi, n'est pas du tout inquiété dans cette affaire-là. Il n'est pas impliqué dans ces affaires.
C'est-à-dire qu'il a dit, au départ, il a dit, je vous promets que je conserve l'emploi. Oui. Ensuite,
il a donné la propriété des entreprises en question à des tiers, et les tiers, eux.
Les tiers, ils ont reçu des subventions pour ne pas supprimer des emplois. Finalement, ils ont tout laissé crouler. Et à la fin, Bernard Arnault a dit « Bon, bah, moi, j'y suis pour rien dans toute cette histoire. »
Exactement.
Donc là, il s'est déchargé de la plupart de ces usines comme ça.
Voilà. Donc, la conclusion de cette première étape de l'histoire, c'est qu'en 1985, Bernard Arnault fait ses premiers bénéfices. Et en quelques semaines, l'action passe de 271 francs à plus de 800 francs. Donc, Bernard Arnault, qui est propriétaire maintenant de l'entreprise, il détient à peu près un quart du capital, va immédiatement devenir quelqu'un de très riche, puisqu'il fait monter le cours de bourse en montrant qu'il a liquidé les usines non rentables. C'est ça que le marché boursier perçoit.
C'est ça qui est terrible.
C'est ça qui est terrible.
Parlons-nous.
Il est
18h20, Jean-Pierre Elkabbach, votre invité ce matin, le PDG de LVMH, Bernard Arnault.
Oui, l'économie dans la campagne électorale avec Bernard Arnault, le patron et manager 64 marques connues dans le monde entier et en pleine croissance mondiale. Bernard Arnault, bienvenue. Vous êtes exceptionnellement rare, vous parlez jamais.
Ça m'arrive rarement, c'est vrai.
Oui. Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, je reçois le numéro 7 des personnalités les plus riches du monde, le français en tête des 15 milliardaires avec une fortune évaluée fin février à 26 milliards de dollars. Et fin mars, elle a beaucoup augmenté.
Écoutez, ces chiffres reflètent en fait l'extraordinaire réussite du groupe LVMH, parce que cet argent, c'est de l'argent investi dans un groupe qui est français, qui est leader mondial, qui a des performances assez exceptionnelles, et qui, dans les 5 dernières années, a doublé sa taille, et qui, je l'espère, c'est notre objectif en tout cas, devrait doubler à nouveau sa taille dans les 5 suivants. Donc, taille, et qui, je l'espère, c'est notre objectif en tout cas, et qui, dans les 5 dernières années, a doublé sa taille, et qui, je l'espère, c'est notre objectif en tout cas, devrait doubler à nouveau sa taille dans les 5 suivants. Donc, avec cet argent, on embauche du personnel, en France notamment, dans les ateliers Vuitton, dans les usines parfum Christian Dior, dans tous nos magasins.
Est-ce que vous surveillez votre classement annuel?
Non.
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 Il y a un constat qui est implacable, c'est qu'il est parti avec 90 millions de francs en partie empruntés et il est arrivé 20 ans plus tard avec 20 milliards d'euros. C'est tout simplement pas possible à réaliser selon les règles normales du capitalisme normal. Quand on n'a rien inventé, sauf si on est Bill Gates avec Microsoft, si on a inventé des choses comme ça, mais quand on n'a rien inventé, ce n'est pas possible. D'autres capitaines d'industrie ont réussi à s'enrichir comme ça, mais pas au point de Bernard Arnault, qui a été, on peut dire, une sorte de magicien de ces opérations extrêmement complexes, mais extrêmement lucratives.
Alors là, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est...
Merci pour le reste.
Non, vous avez dit, pour quelqu'un qui n'a rien inventé.
C'est là le paradoxe de Bernard Arnault, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelait La Passion Créatrice. Or, c'est toute l'ambiguïté du personnage, parce que ce livre dit le contraire absolument de ce qu'est réellement Bernard Arnault. C'est-à-dire Bernard Arnault n'a jamais été un créateur. C'est un financier hors pair, ce n'est pas un passionné, c'est un financier froid et résolu.
Comment on fait quand on n'est pas un créateur, quand on n'entreprend pas finalement, pour devenir néanmoins le patron du premier groupe de luxe du monde et la première fortune de France?
Parce que c'est en tant que financier froid qu'il a vu le trésor que représentait le secteur du luxe. Il a vu qu'il y avait des marges invraisemblables et dans un monde qui était géré par l'affect. Lui est arrivé avec des idées claires et avec un regard financier sur ce monde-là. Pour simplifier, je vais vous dire qu'il avait, au cours des années 80 et 90, le regard qu'ont aujourd'hui les fonds d'investissement internationaux dans l'économie dans les années 2000. C'est-à-dire dans ce monde des années 80, où l'État était totalement présent, où il y avait tout le monde se tenait par la barbichette, où on se faisait pas de croc en jambes, lui avait une vision totalement décomplexée.
C'est-à-dire sans pitié, sans...
Sans convenance, sans pitié, avec une capacité de flatter l'un, de flatter l'autre, de dresser les uns contre les autres, qui est tout à fait spectaculaire.
C'est Héry Routier qui parle, qui lui aussi est l'auteur d'un ouvrage sur Bernard Arnault, qui s'intitule « L'ange exterminateur, la vraie vie de Bernard Arnault » aux éditions Albin Michel. Et on espère que ces éclairages, avec celui de Michel Villette, de Catherine Villermeau, portrait de l'homme d'affaires en prédateur, et celui aussi de Jean-Pierre Elkabbach, qui aide aussi, j'espère, à vous faire connaître l'homme le plus riche de France. Alors, Marie-Hélène Bourlard le disait tout à l'heure, le CAC 40 est très indifférent aux petites mains de CCE, c'est bien possible. Adieu.
Là, on va aller au sous-sol chercher les transports. Hein.
Tout le monde est bien là?
Et Marie-Christine, vous, ça fait combien de temps travailler pour
21 ans. Et je suis toute seule avec 3 enfants. Et pouvoir retrouver après, c'est pas évident. Hein. Surtout que j'ai pas de permis, rien du tout. Donc, je sais pas. Mais après, je sais rien du tout.
Parce que là, les fins de mois, ça se passe comment, vous?
Bah, c'est juste, hein, on attaque déjà le mois qui arrive pour vivre. De toute façon, faut le dire. Hein. Heureusement qu'on a encore des acomptes entre deux, sinon...
Des quoi?
Des acomptes. Tous les mois, on prend un acompte, mais c'est un jeu sans fin. De toute façon, sinon on n'y arriverait pas, c'est pas avec 1000 euros qu'on peut y arriver. Avec toutes les charges qu'on a, chauffage, électricité, tout ce qui est à côté, faut serrer. Il n'y a pas de solution. Enfin, c'est bête. Ça fait mal au cœur quand même. Enfin, faut se battre quand même.
Et là, on repasse devant l'Assemblée, c'est ça, hein, devant
oui.
la salle.
Ils nous regardent comme si on serait de la merde.
Ils nous regardent comme si vous étiez de la merde.
Franchement, oui. Hein? Alors que c'est nous qui avons créé les richesses.
À bientôt. On se reverra.
Moi, je crois que les filles, elles peuvent être fières aujourd'hui d'avoir fait dignement ce qu'elles ont fait.
On va aller, je vous laisse monter dans le bus.
Oui. On se reverra sûrement.
Mais c'est quoi la prochaine?
Merci à tous et à toutes. Merci à Madeleine Charton et aux licenciés de la Samaritaine, à Marie-Hélène Bourlard et aux ouvrières de CCE, à Bertrand Roté, à Michel Villette et Éric Routier, ainsi qu'à Monsieur Baudou, maire d'Aulnoy et Meury. Et puis notez, on en parlera sans doute, ce que nous a indiqué une l'auditrice dans la boîte vocale de la Bassigisvic, c'est que le 22 juin, il y a une soirée de soutien à ces ouvrières dans leur ville âge, ou petite ville en tout cas de Poix du Nord. Voilà une date à retenir, ça ne devrait pas être triste. Je rappelle à nouveau le titre des ouvrages, Michel Villette, Catherine Villermeau, Portrait de l'homme d'affaires en prédateur à la découverte, et Éric Routier aux éditions Albert Michel, L'ange exterminateur. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures. J'ai oublié de dire que c'était un reportage de Pascal Le Pascariello et de François Ruffin, mais ça, vous le saviez. Vous pouvez également réécouter cette émission, cette série d'émissions sur le site là-bas.org, la-bas.org, qui est le site non officiel de là-bas. Si j'y suis, où vous pouvez également lire la réponse de Noam Chomsky à l'affaire, la fameuse affaire de Chavez et la télévision au Venezuela. Et vous avez également un commentaire sur cette affaire qui agite beaucoup, visiblement, sur le site du Monde Diplomatique, un texte de Bernard Cassen. Voilà, la technique aujourd'hui, Alain Gadan et Michel Bertin, Yann Chouquet et Coy Nguyen ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry et Christophe Humbert. Attend vos messages au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, ce qui est, vous le savez, le numéro du répondeur de la base, et j'y suis. Et puis, vous êtes nombreux, par les temps qui courent, à nous parler d'ouvrir des repères. Eh bien, c'est une très bonne idée. Il y en a qui fleurissent un petit peu partout. C'est la saison de l'ouverture des repères de la base, et j'y suis. Je vous rappelle la technique. C'est très facile. Vous avez dans votre village, dans votre quartier, tout d'un coup, un matin, l'idée qu'il y a peut-être d'autres auditeurs de France Inter ou de la base, et j'y suis, dans le secteur. Vous dites, tiens, on va se trouver un bistrot sympa, avec un patron ouvert, pas bête. Et puis, vous allez vous organiser, vous donner un rendez-vous. Et puis, peu à peu, il se passera ce qui se passe un peu partout en France. On est à 60 et 65, je crois, repères, les auditeurs qui, chaque semaine, toutes les deux semaines, se retrouvent, se parlent, échangent et font des tas de trucs pas tristes du tout. Réclame.